Donc oui, vous l'avez évoqué, vos textes parlent souvent de traumas, de violences, notamment liées aux agressions. Ils évoquent l'impact profond, durable, sensoriel que cette violence laisse sur une personne, une mémoire du corps, une mémoire des sons, des odeurs, des gestes. Mais ils parlent aussi de la rage, de refuser que cette marque soit définitive. Ça m'a fait penser aussi à un autre degré de compréhension et je dirais d'écriture, avec une dimension peut-être fictive. Tu revendiques beaucoup les rappeurs, rappeuses. Par exemple, il y a Kazé qui utilise vachement cet exemple pour expliquer aussi les mécanismes racistes pour accuser le rap. On ne laisse pas au rap la dimension fictive.
Ça, c'est un peu la vision un peu raciste et coloniale de la France, vu que le rap est en majorité pratiqué par des pauvres et en majorité par des Noirs et des Arabes, ou alors des Blancs cassés. Tout d'un coup, à cet endroit-là, nous, on n'a pas d'humour. Ouais. C'est-à-dire que si on dit qu'on va égorger quelqu'un, c'est qu'on va vraiment l'égorger. On n'a pas, il n'y a pas de second degré. On n'est pas des auteurs, nous. Tu vois, vraiment, les gens sont vraiment... Enfin, les gens les plus cons ou les plus ignorants sont vraiment disposés à croire tout de suite, sans analyser, tout ce qu'on va dire. C'est-à-dire que si on parle de violence, c'est vraiment, c'est réel. Ce n'est pas de la violence symbolique. C'est de la violence réelle, quoi. Si je dis que ouais, je lui ai coupé 12 bras hier, c'est vraiment j'ai coupé 12 bras. Mais c'est sûr. Ils envoient les keufs vérifier, tu vois. On n'est pas des auteurs, tu vois. Par contre, Renaud, oui. Georges Brassens aussi. Personne n'y voit le côté symbolique. Personne n'y voit le côté fictionnel. Personne ne dit « Oh putain, c'est bien fait, c'est marrant ces scénarios qu'ils inventent. » Ça peut être que vrai, parce qu'on est violent. On est censé être des cons et violents. Je veux dire, on a la gueule des émeutiers. Donc je pense qu'on a des gueules d'émeutiers, on a des gueules de djihadistes, on a des gueules de brigands, délinquants, grands bandits. Donc si on se met à écrire, c'est sûr que c'est vraiment nos vies qu'on écrit.
Dans Trolls, les textes ont un registre de vengeance imaginaire, on en parlait, cathartique. Les textes renversent la dynamique de pouvoir, celles qui ont été détruites reprennent l'ascendant, reprennent la narration et imaginent la destruction de leur agresseur comme une forme de réappropriation de soi. Je voulais savoir à quel endroit en fait vous placez ce niveau d'écriture, est-ce que c'est vraiment de la pure symbolique, c'est... une mise en scène, une prise de position politique assumée jusqu'au bout, parce que les mots sont toujours très forts.
C'est fictif. Bah, je dirais pas que c'est fictif uniquement pour l'instant, puisque j'ai peur de la police, mais c'est un moyen de se réapproprier notre propre souffrance pour en faire quelque chose, en fait. Qu'est-ce que je fais de cette souffrance ? Qu'est-ce que je la laisse, quelle place je la laisse prendre dans ma vie. J'ai pas envie que ce soit juste un récit de ce que je ressens et de à quel point ça me fait du mal. Moi, j'ai envie que ce soit potentiellement aussi un récit de la force que je trouve en moi pour pallier à cette souffrance et pour en faire quelque chose d'autre. Est-ce que ça passe par la vengeance ? Est-ce que ça passe par la menace ? Est-ce que ça passe par le passage à l'acte ou juste par le fait de l'écrire dans une chanson et d'avoir en face de nous des gens qui se disent bah, peut-être qu'elles sont en train de créer la riposte, peut-être qu'il faut qu'elles sont en train de créer la riposte, peut-être qu'il faudrait se calmer. Je sais pas ce que ça provoque chez les gens, en tout cas pour moi. C'est une manière... alors oui, c'est fictif, mais c'est quand même une manière de... C'est de l'empowerment, en fait. C'est genre... j'écris que j'en suis capable, alors j'en suis capable. Est-ce que je vais le faire ?
Ce n'est pas à discuter ici.
Ce n'est pas à discuter ici. Non, je le ferai pas. Mais non. Je le ferai jamais, c'était pas moi.
Non, mais voilà, il faut... La moitié des slogans de manif, c'est des trucs comme ça aussi. C'est des choses que tu dis, que tu as besoin de dire, pas nécessairement pour le faire. On va pas littéralement cramer des hommes en place publique. Moi j'ai mieux pour passer mon dimanche par exemple, mais des fois...
T'as le tatouage.
Ouais, mais des fois l'image elle fait du bien au cerveau en fait, tu vois, tu te dis ah, ça fait du bien au cerveau, donc la fiction c'est super.
C'est de la dopamine, c'est ça?
Exactement, c'est de la dopamine pour le cerveau. C'est ça, c'est une façon de se faire du bien avec des mots quoi.
Et transition, formidable,
ah, mais...
t'as vu ça. Je vous fais écouter un son d'Anne Sylvestre.
Okay. Ah, trop bien.
Une copine qui parle de ça.
Les chansons, je pense, s'écrivent longtemps. S'écrivent pendant des semaines, des mois, quelquefois des années. Bon, une chanson est à plusieurs niveaux. Les gens la prennent comme ils la comprennent. C'est-à-dire qu'une chanson qui est chantée ne vous appartient plus. Mais quelquefois, l'idée de départ, le niveau de départ, c'est que vraiment, on chante et on écrit, surtout, on écrit, parce qu'autrement, on va mourir, mais mourir vraiment. Et je pense que l'écriture est quelque chose qui aide, qui pas simplement aide à vivre, mais aide à ne pas mourir. Je pense que d'écrire est pas seulement quelqu'un qui, dont le métier est d'écrire. Je pense que n'importe qui, en écrivant, peut se faire du bien, peut lui faire du bien à sa vie. Je pense que si on met les choses sur le papier, quelquefois, on ne les a plus en soi et il arrive que ça fasse du bien.
Globalement, oui.
Grave. Mmh. Trop chouette.
C'est ça.
Oui, c'est ça, c'est la place que prend l'écriture dans la musique, elle est super importante. Et la place qu'elle prend dans nos vies, elle est super importante aussi. C'est un récit, c'est une histoire qu'on raconte, qu'on se raconte.
Mais moi, j'aime bien aussi, tu crées des fois une confusion auprès des souvent, les 6 mecs dans le public, moi, peut-être, potentiellement, elle va me tuer. Genre, vraiment, des fois, ils la regardent en mode...
Ça fait peur.
Genre, parce qu'elle a un regard qui peut être très... incisif et genre en mode, enfin on croit en les mots qu'on dit.
C'est une fiction, mais sur scène ça prend quand même vachement une part de réalité, puisque
c'est ça.
Moi personnellement je me sens pousser des ailes et je me sens capable de mettre en pratique tout ce que je dis que je vais faire, quoi.
Et on parlait de philosophie tout à l'heure au début, et finalement si on prend la fiction d'un point de vue philosophique, toute la société est faite de fiction. Alors, Bolloré, il a sa propre fiction. Alors, l'État français actuel, il a sa propre fiction. Et tout le monde, en fait, produit des fictions. Du coup, nous, on produit aussi la nôtre. Et voilà, vous en faites ce que vous voulez.
Mmh. Fiction contre fiction, quoi. Alors, j'ai décelé deux clins d'œil punk. En tout cas, moi, j'ai vu une référence à Petrol Girl.
T'en avais Touch Me Again. Ouais.
On n'a pas pensé à faire un clin d'œil à Petrol Girl en écrivant cette chanson. Enfin, on aime beaucoup Petrol Girls en général, donc peut-être qu'on a été inconsciemment... Enfin, forcément, on est influencé par les choses qu'on écoute, surtout quand c'est des discours aussi forts que celui-là.
Bon, il y en a un plus évident, évidemment, Kathleen Anna, évidemment. Figure punk, féministe, et Bikini Kill, évidemment. Vous êtes très lié au mouvement Riot, tort ou raison, je sais pas trop, quoi. Mais en tout cas, est-ce que c'était pour affirmer une filiation politique ou pour peut-être soulever des questions autour du white féminisme?
Ouais, c'était en fait, du coup, dans la chanson White Boy de Bikini Kill, elle dit White Boy, don't laugh, don't cry, just die. Don't cry! Trash, du coup, une chanson qui parle de fétichisation et de racisme. On dit white boy die, et à un moment, du coup, je dis Kathleen l'a dit avant moi, elle est blanche, mais elle avait raison. C'était un peu une blague en mode vous avez vu, même une blanche le dit. C'était un peu dans la même logique pour les gens qui pourraient nous targuer de racisme anti-blanc, chose à laquelle on croit absolument pas, mais c'était juste pour se foutre de la gueule à l'avance des gens qui auraient pu dire ça. Qui aurait pu répondre ça à cette chanson, qu'on nous a jamais rien dit d'ailleurs.
Non.
Ce que je trouve très étonnant.
C'est vrai.
Mais pour cette chanson n'a pas fait d'esclandre pour l'instant. Mais du coup, oui, c'était pour citer Kathleen Anna, parce que c'est un personnage que j'aime bien. Et aussi pour utiliser un peu la carte, c'est une blanche qui l'a dit, c'est pas moi, quoi. Parce que je trouvais ça marrant.
Moi, je l'avais compris. Genre, mais elle est blanche.
Il y a deux interprétations.
Ouais. Moi, toi tu dis, Kathleen said it before me, she was white, but effectivement, she was right. Mais est-ce que, par exemple, en 10 ans, un groupe queer punk pourrait chanter Z-Tune said it before me, she was right, but she plays in front of white audience?
Waouh, tu vas loin.
Moi, je l'ai vu comme un truc comme ça. C'est-à-dire... Il y a un côté, tu l'as évoqué tout à l'heure, un peu d'entre-soi blanc aussi dans la scène punk.
Ouais, grave.
Moi, je pensais que c'était un espèce de punchline, clin d'œil par rapport à ça.
Ouais, mais ça peut être interprété comme ça. Il y a raison, je pense, parce que... quand je l'ai écrit, en tout cas, c'est à ça que je pensais. Après, maintenant, je sais pas. C'est... Moi, ça me fait toujours marrer de jouer cette chanson en concert parce qu'en général, on la joue devant majoritairement des personnes blanches et je les vois s'ambiancer alors que je les traite de white trash. Et enfin, je sais pas si tous, not all white, mais genre. Non, je rigole. Mais des fois, je vois des mecs cis un peu qui prennent un peu trop de place, qui sont blancs, qui sont avec leur bière, qui font tomber leur bière un peu gauche, enfin, qui sont littéralement trop chiants et s'ambiancer sur cette musique. Et je suis en mode, mais écoute-moi quand je parle, s'il te plaît. On pourrait peut-être trouver cette interprétation-là. Enfin, elle est cohérente, hein. Mais c'est pas ça que je pensais quand je l'écris. Mais ça passe, hein.
En fait, tout ce que tu dis est super cohérent, mais nous, on n'y avait même pas pensé, quoi.
Mais en tout cas, j'ai l'impression que Trolls permet ça. D'autres groupes ne vont pas vers ce type de thématique qui parle de fétichisation raciale et d'objectification sexuelle. Ça vise la manière dont les personnes racisées, notamment les femmes, sont régulièrement réduites à des fantasmes érotiques dans le regard dominant, notamment masculin et blanc. Tu décris la sexualisation comme une violence, un vol de subjectivité. Le racisme n'est pas une opinion ou une maladresse individuelle, mais un héritage historique, structurel, colonial et sexuel. Cette violence est historique et pourtant toujours actuelle. Enfin, je sais que vous êtes aussi impliqué sur Gaza, vous en parlez très très régulièrement dans vos concerts. En tant que groupe, comment vous essayez d'être relais ?
Bah, je pense... Ça se passe un peu partout, sur toutes nos, enfin, sur nos plateformes virtuelles comme au niveau du réel. Ça peut être partager des stories, partager des choses pour les visibiliser parce qu'il y a besoin de les visibiliser et on profite du fait qu'on ait un certain nombre d'abonnés. Et ensuite, c'est en parler, quoi. C'est jamais star, en fait.
Ouais.
Jamais. Ça peut être participer à des concerts de soutien aussi. On en a fait un, par exemple, pendant la tournée où du coup, la thune partait en soutien aux personnes à Gaza, enfin, au peuple palestinien. Et je pense que ça passe en premier par le fait de surtout pas star. Surtout quand on a un semblant de public, un semblant d'audience, un semblant de nombre de personnes qui nous suivent et qui vont écouter ce qu'on a à dire, faut en profiter pour pas dire de conneries, quoi. Il s'agit de pas être lâche, je pense.
Ouais, d'en parler, même avec les groupes avec qui on joue, que ce soit un sujet de discussion, quoi, et que... qu'on soit tous d'accord là-dessus aussi, parce que bon... C'est arrivé qu'on soit pas tous d'accord là-dessus et que ça se soit pas très bien fini, quoi.
Ouais. Vous avez joué en Allemagne ou...
Oui.
Bingo.
Vous avez la bonne réponse.
Vous avez essayé de tourner en Allemagne, ouais.
Et ouais, on a eu des difficultés de ouf par rapport à ça, quoi. Et là, c'était trop bien de tourner en Espagne et au Portugal aussi, parce les gens sont hyper plus...
Pas con, en fait.
Ouais. Genre, juste normaux, quoi.
Ouais, ils sont au courant de ce qui se passe et que c'est pas normal. Enfin, genre, en Allemagne, c'était lunaire, les situations, des fois. Maintenant qu'on a vu le niveau de déni qui est possible d'avoir dans une scène qui est politisée, est-ce que c'est des squats, c'est la scène punk, c'est quand même une scène de gauche, et que même dans cette scène-là, il y a encore moyen à débattre là-bas, ouais. Ben, ça donne juste envie d'encore plus... en parler, d'ouvrir sa gueule, que en gros c'est vraiment pas un sujet qui fait l'unanimité en Europe et c'est pas normal, quoi. À Leipzig, on avait eu des petits soucis avec l'orga.
Et le public.
Et le public.
Chaque putain de personne qui était là.
Ouais, c'est ça. Et du coup, ça, on s'en souviendra à un moment, je pense.
Ça se manifeste comment, genre ça siffle, ça fait
ça
quoi
part.
Ça...
Ils sont partis.
Ils partent carrément.
On nous a gueulé dessus en allemand.
Ouais. On nous a insultés, ouais.
On a essayé d'en discuter avec la personne de l'orga et c'est parti.
Mais sauf qu'elle a juste dit, ici, on n'en parle pas. J'étais en mode, on est dans un squat avec
des antifascistes,
avec des croix gammées barrées du mur au plafond, avec des affiches partout. Et c'est un lieu politique. Quel est le meilleur lieu d'en parler que cet endroit-là où on est dans ce concert-là avec toi qui organise des concerts politiques et féministes et pour mettre les personnes queer et les meufs devant. Et elle nous a juste dit « ça met mal à l'aise » et en gros elle nous a lâché trois punchs bizarres, hyper problématiques et elle s'est barrée, on l'a plus jamais revue. J'avoue qu'on avait beaucoup d'espoir quand on est parti. Et que ça nous a fait pas mal déchanter sur ce sujet.
Mais maintenant, il y a carrément des listes qui circulent de squats qui sont Palestine safe et tout. Enfin, genre, c'est un truc de ouf.
Ouais, c'est le mouvement anti-Dutch.
Ouais, c'est ça. L'anti-Dutch
movement.
C'est ça. On a décidé d'en parler plutôt à la fin du set. pour être sûr que les gens écoutent, en fait, qu'ils écoutent tout ce qu'on avait à dire, et ça. Enfin, ça avait été un sujet entre nous, en mode, comment on fait pour que... ils entendent ça parce qu'ils ont besoin de l'entendre et nous on doit le dire quoi.
Vos textes impactent aussi parce que à travers l'intervention de Zitoun, il y a un point de vue situé qui est hyper fondamental. Je voulais savoir si parfois tu ressens pas un poids ou une responsabilité particulière à porter certaines paroles ou messages parce que tu représentes quelque chose, tu vois.
Si des fois oui. Je ressens un certain poids, mais c'est pas un poids que le groupe me met sur les épaules ou quoi. Enfin, c'est un poids qui vient de fait avec le fait de porter ce genre de message, parce qu'il faut les assumer derrière aussi. Et je pense que ce poids-là, je le ressens quand j'ai l'impression qu'on me prend un peu pour... comme tout à l'heure, on en parlait, qu'on raconte des récits de vie très intimes, très personnels, très traumatisants, alors que moi, je suis pas forcément prête ni très consentante à les recevoir. Ça, c'est un peu compliqué à gérer. L'autre phase de la pièce où c'est plutôt des 6 mecs qui vont essayer d'utiliser ma parole ou ma présence comme la carte Yu-Gi-Oh! Du féminisme ou de l'antiracisme. Et ça, c'est un peu lourd, ouais. Je pense pas édulcorer mon propos ou mon message par rapport à ça. Enfin, c'est pas assez lourd pour que ça me donne envie d'alléger la charge... émotionnel des paroles que j'écris.
Et d'ailleurs, tu as choisi l'anglais. Pourquoi vous chantez pas dans d'autres langues, en fait? Vie par l'italien, je crois. Vous parlez peut-être d'autres langues.
De faire une chanson en arabe, ouais. En darija, en dialecte marocain. Mais mon vocabulaire laisse un peu à désirer, parce que ça fait un moment que je le parle plus trop. Donc il faudrait que je demande de l'aide à mon père. Donc il faut que je choisisse bien le sujet. Du coup, ouais, moi, j'aimerais bien faire une chanson en arabe.
Ben moi, c'est un truc dont j'ai réfléchi un peu et tout, parce qu'il y a un peu ce monopole de la langue anglaise dans la musique,
ouais.
Qui me fait un peu chier aussi dans la vie. Mais d'un autre côté, pour Trolls et tout, vu que Zitoun est à l'aise à écrire en anglais et que c'est plus facile des fois, à mon sens, d'écrire dans une langue qui n'est pas comprise par tous quand tu parles de choses un peu sensibles. Du coup, moi, ouais, c'est un truc que j'aime bien faire, lire en italien et me remettre en ce moment à la langue et tout, et peut-être écrire en italien, mais je sais pas si pour Trolls ça le ferait aussi, tu vois.